Petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bienvenue à vous, chères oreilles buissonnières. Si je vous demande à 8h30 dans la cour de récréation, d'où venez-vous ? Vous me direz, de la maison, bien sûr. Et à 17h, dévorant vos tartines de confiture, d'où venez-vous ? Vous me direz, eh bien, de l'école, pour sûr. Et en sortant à toute allure, à la main de ces mille feuilles plus gros qu'un portefeuille de bon augure, d'où venez-vous ? De la pâtisserie au petit beurre pur. Et en partant de Nice pour la Corse, d'où venez-vous ? Eh bien, de France, Madame Arthur. Quoi de plus simple, de plus facile ? Quoi de plus souple, de plus gracile ? Pas de gravier, d'achoppement, ni d'yeux froncés, de grognement. Mais si je vous dis tout net, tout sec, tout court et sans détour, sans introduction ni conclusion, d'où vient-on ? Oh ! Ah ! Ah ah ! Votre mine facétieuse se fait soudain plus soucieuse. Eh bien, la voilà, la question d'ici-bas. D'où vient-on ? C'est le docteur Pierre Gilioz qui aujourd'hui vous répondra de son savoir et sa pratique de gynécologue.
En premier, je pense que si vraiment l'homme existe, c'est grâce à Dieu.
D'abord, il y a la terre qui s'est créée.
En premier, on peut pas vraiment savoir qui c'est qui a vraiment créé toute la famille.
Il y a eu une espèce de graine dans l'eau qui a évolué. Et peut-être bien que nous, au fond, vu qu'il y a, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, peut-être bien qu'on vient de cette graine-là, au final.
Nous, on est gros, on est des animaux, mais il y avait des espèces qui étaient dans l'eau et qui, au fur et à mesure, en sont sorties.
Après, ils ont évolué, donc après, ils sont devenus des hommes. De père en fils et de mère en fille, et ben on a pu former une famille et c'est comme ça qu'on est venu. Nos ancêtres étaient des singes, mais moi je sais que je viens de ma mère. La maman de ma mère a eu ma mère et c'est comme ça que, et après ma mère elle m'a eu moi et donc ça ainsi de suite, ça continuera tout le temps. Finalement, je pense qu'en fait c'est un peu grâce à nos grands-parents qu'on vient de notre mère, parce que si nos grands-parents n'auraient pas eu notre mère, et ben on serait jamais là.
Ben moi je dis qu'on vient de notre père parce que c'est lui qui c'est grâce à lui qu'on existe.
On vient d'un ovule formé par le père qui est rentré dans le ventre de la mère.
Je sais pas moi, peut-être bien qu'on ouvre le ventre et ou qu'on fait une opération, on ouvre quelque chose.
On vient de notre mère qui a qui a couché avec notre père pour nous avoir.
Ce matosoïde du verre, il est rentré dans la mère et après c'est la mère qui a fait l'effort de nous grandir dans son ventre, après de nous accoucher.
On vient de notre père, mais sans notre mère, on ne pourrait pas exister. Et on vient de notre mère, sans notre père, on ne pourrait pas exister non plus.
Si par exemple on a des frères et sœurs, on vient du même endroit parce que l'enfant il reste pendant 9 mois dans le ventre et pas autre part. C'est le sang qui fait que ça, on se ressemble plus.
Moi je ressemble plus à ma mère que mon père. C'est plutôt ma sœur qui ressemble plus à mon père. Enfin c'est tout le monde ce qu'ils disent. Hein. Par exemple je ressemble un peu plus à mon père et ma mère moins par exemple. Donc il a peut-être donné plus par rapport à moi et ma mère moins ça forme.
Par exemple moi je suis plus mat de peau dès la naissance, mais ma sœur elle est plus blanche donc.
Dans la poche de la mère, on n'est pas jumeaux on a été séparés dans le ventre. Il y a eu deux poches, par exemple. Que quand tu es jumeau, y a une poche, il n'y en a qu'une. Et donc, tu es avec ton frère. Donc, à force de grandir, tu as la même tête et tu es formé comme lui.
Des fois, on n'est pas obligé de ressembler à son père ou à sa mère. Des fois, moi, j'ai un peu la ma mamie, des fois, on a les mêmes expressions ou des trucs comme ça. On n'a pas tous le même sens, c'est pour ça qu'il y a des... Je crois que ça s'appelle des groupes sanguins, un truc comme ça. Là.
Ben, en fait, c'est les ADN, c'est ça qui nous fait ressembler à nos parents.
Mais il y en a quelques-uns, par exemple, qui viennent de deux ventres différents. Parce que, par exemple, les femmes homosexuelles, eh ben, si elles veulent avoir un enfant, elles ne peuvent pas. Alors, eh ben, y a, l'enfant, ben, on fait une opération et puis on le fait passer dans le ventre de l'homosexuel pour qu'il puisse avoir un enfant.
Ben, des fois, comme on adopte, eh ben, ça revient au même. C'est comme si c'était notre enfant, sauf que c'est des autres parents qui ont fait leurs enfants, sauf qu'ils les ont abandonnés. Donc,
On est frères et sœurs, on est exactement pareil. Mais on n'a pas le même caractère. L'autre, il va être énervé, l'autre, il va être doux.
Moi, je pense qu'on n'est pas forcément pareil parce que on se ressemble en esprit, mais pas vraiment dans le physique. Ou...
On ne sait pas aussi, peut-être qu'on vient tous de la même personne. C'est peut-être qu'une personne a choisi plusieurs noms de famille et ça... Ils se sont coupés en plusieurs et ils ont fait des familles, enfin, je sais pas.
Si ça continue à chaque fois, c'est que peut-être qu'il y a des milliers de personnes dans une famille. On peut pas savoir.
C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui passe par ici et qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin.
Oh bon?
C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui passe par ici et qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin.
Ah bon? Dis papa, dis-moi, comment c'est fait dans les fusées? Dis papa, dis-moi, comment c'est fait dans les fusées?
C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui passe par ici et qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin.
Ah bon? Dis papa, dis-moi, comment on fait pour les bébés? Dis papa, dis-moi, comment on fait pour les bébés?
C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin, le petit zinzin.
Ah bon?
C'était Henri Dess, le petit zinzin sur les oreilles buissonnières. Alors les petits zinzins, c'est drôlement bien, ça fait 2000 en un. Les pianos, les autos, les vélos, les radios, les fusées, les paniers, les lacets, les soufflets, et même les bébés. Alors vous, monsieur Pierre Gilioz, docteur en gynécologie, chantez-vous cette chanson aux futures mamans que vous accompagnez? Que dites-vous à ces enfants devenus des parents qui, dans les yeux sourcils inquiets, vous demandent « Eh bien, docteur, d'où vient-on ?»
Quelle longue question et question difficile à répondre. Je pense que le problème qui est soulevé là, c'est celui de l'origine de la vie, tout d'abord. Et là, il faut remonter plusieurs centaines de millions d'années en retour pour venir à la première cellule. Il y a une cellule qui a été créée, personne ne sait comment elle s'est développée. Cette cellule, elle avait un système de codage, comme un CD qu'on mettrait dans une console de jeu actuellement, et qui donnait un certain nombre d'informations qui permettaient donc à cette cellule d'exister, de fonctionner, d'avoir ce qu'on appelle un métabolisme, c'est-à-dire de pouvoir avoir des sécrétions. Et cette cellule, chose extraordinaire, elle s'est reproduite. C'est-à-dire, contrairement à tous les objets qu'on peut voir, les pierres ou les éléments minéraux, qui ne se reproduisent pas, cette cellule a commencé à se reproduire. Elle a commencé à se reproduire en se reproduisant à l'identique. Et petit à petit, donc, il y a eu une autre évolution qui a fait qu'il a fallu deux cellules pour se reproduire. C'est-à-dire qu'il y a eu une cellule mâle et une cellule femelle. Et ceci a permis d'avoir des animaux ou des végétaux d'ailleurs qui évoluent de la même façon et qui sont devenus de plus en plus compliqués. Et donc, avec les millions d'années qui se sont passées, petit à petit, les animaux sont apparus et chacun donc a évolué en transmettant à des enfants animaux, des petits animaux, leurs informations génétiques. Ces informations génétiques, elles étaient sous la forme d'une espèce de, comme une bande magnétique, comme il y avait avant quand il y avait des cassettes audio, qu'on appelle l'ADN, comme on en parle tout à l'heure. Et quand il y a cette transformation, elle se fait progressivement, elle se transmet, mais elle se transforme en même temps, ce qui fait que petit à petit, les enfants des parents sont un tout petit peu différents. Et au bout d'un certain temps, il y a eu une évolution, ce qu'on appelle l'évolution, c'est-à-dire que les animaux sont devenus de plus en plus sophistiqués jusqu'à arriver à l'homme.
Donc l'histoire de la petite graine dans l'eau dont parle la petite fille tout à l'heure, est-ce qu'il y a un petit peu de vrai ou pas du tout?
Mais personne ne pourra répondre là-dessus parce que c'est vraiment trop compliqué. Ce qui est certain, c'est que tous les animaux, tous les végétaux qui sont sur la Terre sont probablement issus d'une même cellule qui s'est reproduite d'abord à l'identique et puis ensuite petit à petit qui s'est différenciée et c'est ce qu'on appelle l'évolution.
Donc nous aurions tous la même origine?
Apparemment, oui, on a tous la même origine.
D'accord, donc ces histoires de cigognes qui apportent les bébés dans des baluchons, de garçons nés dans les choux et de filles dans les roses, c'est des sornettes de poètes, tout ça?
Je crois que le problème, c'est que très souvent, on a du mal, les parents ont du mal pour expliquer aux enfants comment ils sont là. Et donc, actuellement, au XXIe siècle, il faut peut-être utiliser d'autres termes que les cigognes ou les bébés qui sont nés dans les choux ou dans les roses. Et il faut trouver d'autres explications.
Alors, justement, au tout début, vous avez parlé de cellules. Mais qu'est-ce que c'est que cette cellule? Est-ce que c'est une toute petite personne en miniature, toute petite, 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 qui se développerait, qui grandirait? Ou qu'est-ce que c'est que ça, une cellule?
Une cellule, c'est une structure qui est composée donc de deux parties. Une partie, comme je disais tout à l'heure, qui contient les informations qu'on appelle le noyau, qui serait donc l'équivalent d'un CD qu'on mettrait dans une console de jeu, comme je disais tout à l'heure. Et puis autour, il y a tout un tas de substances chimiques qui permettent à la cellule de vivre, de fonctionner, de produire de l'oxygène ou de consommer de l'oxygène. Cette cellule est toute petite, on ne la voit pas du tout à l'œil nu, il faut des microscopes pour la voir. Et au début, donc, ces cellules étaient séparées, c'est ce qu'on appelle des êtres unicellulaires. Et petit à petit, ces cellules se sont réunies pour faire des êtres vivants.
Et alors, celle qu'il y a dans le ventre de la maman, comment se fait-il que celle-là, en particulier, puisse donner naissance à un individu?
Chacun d'entre nous, donc, on est composé de milliards de cellules qui sont différentes les unes des autres. Il y a des cellules musculaires, des cellules de la peau, des cellules du cerveau, etc. Et chacun d'entre nous, on a aussi des cellules qu'on appelle germinales, c'est-à-dire c'est les cellules qui vont permettre la transmission de la vie. Et l'évolution se fait différemment chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, ces cellules-là sont des cellules relativement grosses, mais qu'on ne voit même pas à l'œil nu, et qu'on appelle des ovules. Alors que chez les hommes, ce sont des cellules qui sont très petites, qui sont un peu taillées comme une fusée à tête chercheuse, et qu'on appelle des spermatozoïdes. Et donc l'enfant qui va naître de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde.
Donc on vient de la rencontre d'un homme et d'une femme, donc le plus souvent on peut imaginer de leur amour.
Voilà, je crois qu'il faut séparer deux niveaux différents. Il y a le niveau de la reproduction qui fait qu'il y a un ovule d'un côté, un spermatozoïde qui vont se rencontrer. Et il y avait un des enfants qui disait « papa a couché avec maman ». C'est vrai qu'il y a une rencontre, je dirais, d'ordre sexuel. Mais cette rencontre, elle se fait aussi dans un cadre psychologique, qui est le cadre de l'amour, le fait qu'un homme et une femme aient envie de construire un avenir ensemble avec la naissance d'un enfant.
Et alors, ensuite, comment ça se passe une fois que ce spermatozoïde a rencontré cet ovule ?
Donc, c'est le spermatozoïde donc, qui, comme je disais tout à l'heure, avec comme une tête chercheuse, va pénétrer dans l'ovule et les chromosomes du père et les chromosomes de la mère vont fusionner pour faire un être nouveau, complètement différent, qui parfois, donc, cet être nouveau, cette cellule va se diviser donc, en 2, en 4, en 8, en 16, etc., jusqu'à arriver à des milliards de cellules et faire un petit enfant qui va naître.
Et c'est à partir de là que naissent les bras, les jambes, le nez, les yeux, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs extérieurs encore qui interviennent ?
Donc chacun d'entre nous, on a au départ un patrimoine génétique qui permette aux bras, aux bras de se faire, aux yeux d'avoir leur couleur, etc. Et puis c'est vrai qu'aussi il y a des éléments extérieurs. Par exemple, si quand le fœtus est dans le ventre de la maman, l'alimentation en sang se fait plus ou moins bien, il pourra être plus ou moins bien nourri, avoir un retentissement par exemple à la naissance.
Alors vous dites les yeux bleus, les cheveux, tout ça. Pourquoi justement, d'une personne à l'autre, nos caractéristiques physiques peuvent être différentes ? Vous parlez de patrimoine génétique. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu, s'il vous plaît ?
Dans chacun d'entre nous, dans toutes nos cellules, on a donc un noyau avec des milliards d'informations. C'est ce qu'on appelle donc le patrimoine génétique, qui est, comme je disais tout à l'heure, un CD, comme un CD qui aurait des milliards d'informations. Ces informations donc, sont différentes suivant les personnes et en fait ces informations elles sont par moitié, elles arrivent par moitié du père et par moitié de la mère. Donc suivant des règles assez compliquées, quand elles se rencontrent, elles vont donc donner un certain nombre d'éléments qui vont faire que l'enfant à la fois va avoir une ressemblance au père ou à la mère ou des deux ou être différent.
Oui, mais à la fois, il y a un enfant qui dit qu'il ne ressemble pas du tout à son père ni à sa mère, mais à son grand-père ou à sa grand-mère. Alors, comment on explique cela ?
Tout simplement parce que nous sommes les derniers maillons d'une longue chaîne et que les gènes qui font de nous, qui nous donnent la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc., venaient de nos parents, mais eux-mêmes l'ont eu de leurs propres parents, donc de nos grands-parents, etc. Donc les éléments nous constituent sont les héritages des générations qui nous ont précédés.
On est donc le fruit d'une grande, grande chaîne finalement.
C'est une longue chaîne qui remonte à des milliards d'années et qui remonte à la cellule initiale.
Et alors une petite question encore, pourquoi naît-on fille ou garçon ?
Dans notre patrimoine, comme je disais tout à l'heure, on a ce qu'on appelle des chromosomes. Les chromosomes sont des petites bandes, je dirais, d'informations génétiques. Et les êtres humains, les hommes et les femmes, ont 46 chromosomes, 23 chromosomes qui viennent du père et 23 chromosomes qui viennent de la mère. Parmi ces chromosomes, il y en a un qui est très particulier, qui s'appelle le chromosome X ou le chromosome Y. Et donc, quand un enfant naît en récupérant, si je peux dire, le chromosome X de sa mère et le chromosome Y du père, ça va faire un garçon. Alors que un autre enfant qui va hériter des chromosomes X du père et un chromosome X de la mère va naître petite fille. Et lui-même, quand il aura des enfants, il transmettra, si c'est une fille, obligatoirement un chromosome X à ses enfants. Et si c'est un garçon, il transmettra soit le chromosome X, soit le chromosome Y à ses enfants, qui naîtront donc ainsi garçon ou fille.
On est donc bien loin des roses et des choux, hein ?
Ah oui, c'est sûr, mais avoir un enfant, c'est tellement merveilleux.
Et alors, une petite fille disait, mais les mamans homosexuelles, comment ont-elles des enfants ?
Mais pour qu'un enfant naisse, il faut qu'il y ait à un moment donné un spermatozoïde. Donc le spermatozoïde, il peut venir ni d'une maman ni de l'autre. Et donc c'est obligatoirement un homme qui va donner son sperme pour qu'une femme puisse être fécondée.
Mais on ne coupe pas le ventre quand même?
Non, en fait, on dépose... dans la nature, dans l'ordre des relations sexuelles, le pénis du papa va déposer le sperme dans le ventre de la maman pour que la petite graine, le spermatozoïde, puisse rentrer dans l'utérus et féconder donc l'ovule de la maman. Lorsqu'on est dans le cadre du couple homosexuel, puisque vous avez évoqué cette possibilité, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle faire une insémination, c'est-à-dire qu'on dépose le sperme artificiellement.
Alors, une question toute bête avant cette chansonnette. Et les chouettes, alors, d'où viennent-elles? Écoutez plutôt.
Il y avait toute la famille dans la cafétéria. Ça prenait des paris, certains disaient, ce sera sans aucun doute une fille. Parce que je te portais pas, même si l'échographie me prédisait un gars. Et puis il y avait ton père, exalté comme une femme, entre la crise de nerfs et puis la crise de larmes, impatient comme un cheval derrière la barrière qui piétine la terre avant la course finale. Puis il y avait l'infirmière tranquille comme un poisson, diplômé en matière de respiration, qui me flattait la jaquette pendant les contractions et qui m'appelait ma chouette comme si c'était moi le poupon. Et bien sûr il y avait moi, moi la chouette en question, tremblante comme un soldat qui va combattre au front, comme une brebis frileuse qui veut pas qu'on la tonde, comme une poule couveuse qui sait pas comment pondre. Finalement il y avait toi, toi qui voulais sortir, tant pis si c'était toi, tant pis si ça déchire, pressé comme la police en pleine chasse à l'homme, toi la star en coulisses, j'allais te voir en personne. À l'heure où, pour être franche, moi j'en avais plein le col. Il y avait une petite balle blanche qui prenait son envol. Sur le grand terrain de golf où se promenait mon docteur, qui entendait pas sonner le téléavertisseur. Il y avait toute la famille dans la cafétéria. Ça mangeait des croustilles, ça buvait du cola. Et puis il y avait ton père que je sentais faiblir, qui savait pas quoi faire et encore moins quoi dire. Et l'infirmière inquiète qui regardait filer l'heure, qui me répétait, ma chouette, on trouve pas ton docteur. Et il y avait moi la chouette qui gueulait dans la chambre, débarque de ma jaquette ou bien je te casse les jambes. Puis il y avait le médecin de garde qui est venu à la rescousse de la pauvre garde malade qui osait même plus dire pousse. C'est à ce moment précis que tu t'es sorti la tête. Ton père s'est évanoui et l'infirmière m'a dit, un dernier effort, ma chouette. Quelques secondes plus tard, t'étais contre mon sein, avec ton petit regard bouffi qui cherchait le mien. Ton papa, tout papa, pleurait comme un gamin, en mettant son gros doigt en dessous de ta petite main. Il a rejoint la famille qui brûlait de savoir. Il a dit, c'est une fille, a sorti les cigares. Elle a dit, petite fois, c'était là, les cheveux noirs, une belle fille grassouillette de 8 livres et quart. Aujourd'hui, ma fillette, c'est ton anniversaire. T'en as plein la bavette de ton beau dessert. En fait, depuis ta naissance, y a qu'une chose qui m'inquiète, c'est que parfois j'ai tendance à t'appeler ma chouette.
C'était Ma Chouette de Linda Lemay sur les oreilles buissonnières. Alors voilà, si d'où l'on vient est auréolé de mystère, où l'on arrive est encore une histoire aux mille lumières. Il y a ces quatre bras qui vous accueillent, un papa, une maman et aussi les parents des parents, les grands-mères, les grands-pères, les mamies aux confitures, au sel, aux chignons et aux frondures, les papiers à bicyclette ou ceux qui fument la pipe en cachette. Et puis il y a parfois aussi des grandes sœurs et des grands frères, ceux qui tapent de colère devant ce bébé tout neuf comme un neuf, ceux qui jouent à la poupée avec ce bébé bouche bée, ceux qui font mine de ne rien voir et de jouer les rois du soir. Bref, toute une grande famille avec ses tics et ses croustilles. Et puis il y a ceux qui viennent de loin et ceux qui arrivent dans d'autres coins. Comme ce petit loup de plus, une histoire de Marie-Hélène Delval. Il y a bien longtemps de cela, près d'une épaisse forêt, vivait une pauvre, très pauvre famille. Ils étaient 10 à se serrer dans une petite, très petite maison. Le père, la mère et les 8 enfants. Leur champ était si plein de cailloux qu'ils donnaient juste un peu de blé pour le pain, un peu de légumes pour la soupe. Quand c'était la saison, les enfants ramassaient les pommes d'un vieux pommier, les cerises d'un jeune cerisier, les mûres dans les ronciers ou les champignons dans les prés. Ils n'avaient pas toujours assez à manger, mais ils trouvaient de quoi se chauffer avec le bois mort de la forêt. Et ils tâchaient d'être heureux, tous les 10 comme ils pouvaient. Mais quand une nuit d'automne naît un 9e bébé, la mère se met à pleurer. Elle dit « C'est trop, je ne peux pas, je n'ai pas assez de bras pour faire manger, pour laver, pour bercer, pour porter tous ces enfants-là. » Et elle pleure, et le père ne sait pas quoi dire, et les enfants ne savent pas quoi faire pour la consoler. Elle est si fatiguée. La mère enveloppe le nouveau bébé dans un morceau de couverture et elle le couche dans un panier devant la cheminée. Cette nuit-là, Frou le hibou chassait. En passant au-dessus de la petite maison près de la forêt, il entend le cri d'un bébé nouveau-né. Frou le hibou est curieux. Il se pose sur le rebord de la fenêtre et il regarde à travers le carreau en ouvrant tout grand ses yeux ronds. Frou le hibou voit tout et il entend tout. Alors il se dit, ces pauvres gens avaient déjà bien de la peine à vivre tous les 10. Ce bébé-là, c'est un bébé de trop. Je vais faire quelque chose pour les aider. Et il s'envole aussitôt vers la forêt, à la recherche de quelqu'un qu'il connaît. Frou le hibou a bon cœur. Un bon cœur de hibou. Seulement les hiboux ne comprennent pas tout. Cette nuit-là, Théo le loup chassait. Soudain, un battement d'ailes lui fait tourner la tête. C'est Frou le hibou qui s'est posé près de lui. Frou le hibou dit « Bonne nuit, grand loup. Je sais que ta rate à louve a eu des petits. Y a-t-il encore un peu de place dans ta tanière pour un petit loup de plus? Un petit loup sans poils et sans griffes? Un petit loup tout rose et tout nu ?» Théo le loup fronce son museau et il dit « je vois ce que c'est. Un petit homme, n'est-ce pas? Où l'as-tu trouvé ?» Frou le hibou répond, il est couché dans un panier devant une cheminée, dans une petite maison près de la forêt. Théo le loup répète, dans une maison? Alors ce n'est pas un bébé abandonné? Frou le hibou secoue sa tête carrée, écoute-moi donc un peu grand loup, je n'ai pas dit que c'était un bébé abandonné, c'est un bébé de trop, voilà tout. Et Frou le hibou raconte ce qu'il a vu et entendu dans la petite maison près de la forêt. Quand il a fini, Théo le loup reste un moment silencieux, les sourcils froncés. Puis il dit « tu as raison, c'est un bébé de trop, allons le chercher. » Théo le loup a bon cœur, un bon cœur de loup. Seulement les loups ne comprennent pas tout. Au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait dans la petite maison près de la forêt, la porte s'est ouverte doucement et Théo le loup est entré. Le bébé était endormi dans le panier devant la cheminée. Théo, le loup, a pris entre ses dents les coins de la couverture et il est reparti comme il était venu sans réveiller personne. Théo, le loup, a emporté le bébé au fond de la forêt, dans sa tanière, où Tara, sa louve, allaitait 3 petits loups. Et à partir de cette nuit-là, Tara, la louve, a allaité un petit loup de plus, un petit loup sans poils et sans griffes, tout rose et tout nu, et qui poussait des petits grognements contents quand il avait bien bu. Comme font tous les petits loups repus. quand le matin revient dans la petite maison près de la forêt, on s'aperçoit que le panier est vide. Alors, la mère, le père et les 8 enfants se mettent à chercher partout, comme des fous, en pleurant et en appelant dans la maison, autour de la maison et jusque dans la forêt. Mais ils ne trouvent pas le bébé. Alors, ils se serrent les uns contre les autres, autour du panier vide devant la cheminée. Et la mère dit « C'est peut-être une fée de la forêt qui a emporté notre bébé. Elle a vu qu'on était déjà si serrés dans notre si petite maison et elle a voulu nous aider. » Seulement les fées ne comprennent pas tout. À partir de ce matin-là, quand la mère allait puiser de l'eau, elle restait un moment au bord du puits et elle pensait très fort. « Fée de la forêt, si c'est toi qui as emporté notre bébé, rends-le-moi s'il te plaît. J'ai déjà beaucoup d'enfants, c'est vrai, mais j'en ai bien assez de mes 2 bras pour bercer et pour porter ce petit enfant de plus. Tu n'avais pas le droit de me l'enlever. » Quand le père allait couper le bois dans la forêt, il s'appuyait un moment contre un arbre et il pensait très fort. « Fée de la forêt, si c'est toi qui as emporté notre bébé, rapporte-le, s'il te plaît. J'ai déjà beaucoup d'enfants, c'est vrai, mais j'ai bien assez de mes 2 bras pour nourrir et pour cajoler ce petit enfant de plus. Tu n'avais pas le droit de me l'enlever. » Et quand les enfants couraient dans les prés en jouant à cache-cache ou à chat-perché, ils s'arrêtaient quelquefois de jouer et ils criaient dans toutes les directions. « Fée de la forêt, fée de la forêt, si c'est toi qui as emporté notre petit frère, rapporte-le s'il te plaît. On est déjà 8 enfants, c'est vrai, mais on n'est pas de trop pour taquiner, pour chatouiller, pour dorloter un petit frère de plus. Tu n'avais pas le droit de nous l'enlever. » Mais aucune fée de la forêt ne répondait jamais. Les jours ont passé. L'hiver est arrivé et la neige tombe sur la forêt. Bientôt, ce sera la nuit de Noël. Les étoiles le savent et elles brillent plus fort. Et la neige le sait et elle tombe plus douce. Toute la forêt le sait et elle a l'air d'attendre. Un soir, Frou le hibou dit à Théo « J'ai un souci, grand loup. Dans la petite maison près de la forêt, où ils sont 10 à essayer d'être heureux, ils ne sont pas heureux du tout. » Théo le loup répond. « Je sais. J'ai vu l'aîné des enfants venir couper un petit sapin. Il a marché longtemps dans les sentiers en regardant partout, comme s'il avait perdu quelque chose en regardant partout. J'ai vu le père tailler des jouets de bois en secret. Et à la fin, il a fabriqué une espèce de hochet et puis il l'a jeté. » Frou le hibou ajoute. « J'ai vu la mère éplucher des châtaignes pour préparer un gâteau. Parfois, elle s'arrêtait et elle regardait un panier vide devant la cheminée. Ils préparent tous Noël et ils ne sont pas heureux. » Alors, Théo le loup soupire. « Nous nous sommes trompés, hibou. Dans ma tanière, il y a un petit homme sans poils et sans griffes, tout rose et tout nu, qui ne sera jamais un petit loup de plus. Et dans la petite maison, près de la forêt, il y a un petit enfant de moins et cela n'est pas bien. » Frou le hibou dit tout bas. « Tu as raison, grand loup, cela n'est pas bien. » C'est la nuit de Noël. Il fait noir dans la petite maison près de la forêt. Seules les braises dans la cheminée donnent un peu de lueur. Frou le hibou est perché sur le rebord de la fenêtre et il regarde à travers le carreau. Il chuchote. « Il dort. Tu peux entrer, grand loup. » Alors, Théo le loup pousse doucement le loquet de la porte avec sa patte. Il tient entre ses dents les coins d'une couverture avec quelque chose endormi dedans. Il entre et il dépose ce qu'il porte dans le panier devant la cheminée. Puis il s'en va comme il est venu, sans réveiller personne. C'est la nuit de Noël. Tout dort dans la petite maison près de la forêt. Sur la table, il y a un gâteau de châtaigne décoré de feuilles de houx. Il y a un sapin dans un coin et des jouets de bois dans les souliers des enfants. Et dans un panier devant la cheminée, il y a un petit loup sans poils et sans griffes, un bébé tout rose et tout nu, un petit enfant de plus qui suce son pouce en attendant le matin. Voilà, c'était un petit loup de plus de Marie-Hélène Delval aux belles histoires de pommes d'api. Un petit loup de plus sans poils et sans griffes, tout rose et tout nu. Alors voilà, les loups sont des loups et les petites bêtes sans poils et sans griffes sont des petites bêtes sans poils et sans griffes. Alors appelons un chat et un chien, un rat et un dain. Nous venons d'où nous venons, c'est comme ça. Qui a vu un poulain naître d'une vache et d'un lapin ou un poussin naître d'une biche et d'un babouin? On a des poils comme ceci ou des plumes comme cela, des lèvres comme ci ou des becs comme ça, des griffes comme mi ou des ongles comme là. Mais moi, je dis quand même que l'on vienne d'ici ou là, on a une vie, on a des choix, des chemins, des détroits, des croisements, des déviations, des changements, des directions. Alors, selon les panneaux, les feux verts, les priorités, à droite ou à l'envers, notre « d'où vient-on » ne nous dit pas « où va-t-on ». Ça, c'est la chance de l'existence, d'avoir des racines, des origines, mais aussi un horizon plein de saisons, un azur plein d'aventures, une frise du temps pleine de surprises, de mille instants. Alors voilà, merci à Monsieur Pierre Gilioz, né bébé tout rose, est devenu docteur en gynécologie. Silver Petit, né bébé tout petit, est devenu monteur son. Éric Barral, né bébé qui rit qui râle, est devenu technicien radio. Et moi-même, Franck Donatienne, né bébé languedocienne, est devenu ce que je suis. Vive le vent qui nous a poussés de l'avant. Alors, chères oreilles buissonnières, à plume ou à poil, à pied ou à cheval, que la vie vous mène au vent. Alors, à bientôt, au détour d'une onde en l'air, sur les oreilles buissonnières. Thank you.